a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC, Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'After, c'est parti pour deux heures de bonheur. Bien entendu, avec nous ce soir, Pierre Ducrot. Bonsoir Pierre.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Pierre.
Très bien.
Jonathan Macardé est avec nous ce soir également. Bonsoir Jonathan, ça fait plaisir de te revoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Pierre.
Col roulé, tout ça. Soft.
C'est quoi cette petite voix?
Soft, téléphone
soft de mes classes.
On ouais. fait comme on peut.
Mais pas autant que là, j'avais pas vu moi cette belle moustache.
Ah, il se cherche en ce moment.
Non, là je suis en pleine, en plein travail artistique. Prends ça, dit le Rami.
Voilà. Salvatore Dali, ça fait.
Il y a un petit côté comme ça, mais tu verras, ça bouclera vraiment.
Je pense que c'est mieux Dali que Rami hein, comme comparaison.
Quand j'aurai la bonne cire. Ce sera ni l'un ni l'autre, tu verras. Ce sera moins longé, il sera plus bouclé. Okay. Voilà. Si ça vous intéresse. Les avis tranchés à venir dans quelques instants de Pierre Ducrot et de Jonathan Macardy. Il y en a un qui concerne Balotelli, il y en a un qui concerne Jardim de retour du côté de Monaco. Neymar forfait pour le huitième de finale face à Manchester United. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le Paris Saint-Germain? On vous pose la question. On attend vos réponses au 32-16. Et puis à partir de 23h, les drôles de dames seront là. Il y a de la Ligue 2 également ce soir.
Ouais.
Tout à l'heure, il y a eu 0-0 entre Clermont et Le Havre. Le PFC s'est imposé en toute fin de match à Béziers 1-0. Et ça joue en ce moment même entre 3 et Lens. Match que nous allons suivre avec Lucien Denis. Salut Lucien.
Ouais, salut Nicolas. Bienvenue au stade de l'Aube. Effectivement, à la mi-temps, il y avait également 0-0. Mais au retour des vestiaires, eh bien, ce sont les Troyens qui ont fait le break en ouvrant le score par l'intermédiaire de Kevin Fortuné sur un très très beau coup franc côté gauche de Brian Pelé. Fortuné, ancien joueur de Lens qui, tu dois t'en douter, n'a pas fêté son but face à ses anciens copains. Mais ça permet quand même aux Troyens de mener face à Lens sur le score d'un but à 0. Ça permet aussi à Lens d'espérer, pourquoi pas, se frotter à la tête du classement puisque ils vont aller affronter Metz, ils recevront Paris FC avant d'aller à Niort, c'est-à-dire qu'ils ont un mois décisif pour essayer de jouer eux aussi le premier rôle. Par contre, ça va mal pour Lens qui est mené à 3, 1-0.
Ça joue ou pas là, Lucien?
Ouais, effectivement, les Lensois avaient une grosse domination en première période avec beaucoup d'occasions. Sabassa vraiment au top qui a tout arrêté. Et là, et bien sur ce contre au début de la seconde période, alors que les Troyens n'avaient pas eu beaucoup d'occasions en première période, et bien ils ont ouvert le score. Ça veut dire que pour les Lensois, et bien ça devient tout simplement difficile. On va suivre et bien cette fin de rencontre, si tu veux bien, Nicolas, pour Vas-y. Savoir si effectivement les Lensois sont capables de revenir au score ou si 3 fait la différence.
Très bien, merci beaucoup Lucien. Et c'est vrai que c'est très serré. Hein. Le PFC qui a donc gagné tout à l'heure à Béziers 1-0 est 3ème avec 38 points. Grenoble qui est 9ème n'est qu'à 4 points. Hein. Finalement du podium, de la troisième place.
Et c'est serré en bas aussi.
Oui, exactement. C'est vrai que c'est serré aussi en bas également. Mais les gars, on va débuter cet after par les avis tranchés. On va commencer par toi, Jonathan.
Allez.
Jingle, Jonathan Macardy.
C'est neutre, y a rien, tu sais même pas quel est leur type de jeu. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
Alors Marseille s'est incliné face à Lille vendredi, défaite 2-1 au Vélodrome, qui a aussi été marquée par les grands débuts de Mario Balotelli avec l'Olympique de Marseille. L'Italien qui a marqué son premier but, qui a disputé ses premières minutes donc avec l'OM. Mais toi, tu te méfies de l'effet Balotelli, Jonathan?
Je m'en méfie, mais c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. Le truc, c'est que, en fait, tout a été dit sur le transfert de Balotelli. Donc, je pense toujours que l'Olympique de Marseille s'est retrouvé à être un petit peu le paillasson de Mino Raiola. Il y a eu des modalités, mais qui, même si elles ont été démenties par Jacques-Henri Hérault, qui sont somme toute assez douteuses. Un contrat de 6 mois avec un très fort salaire. Comment tu fais à la fin de la saison? Bref, tout ça a été balayé d'un revers de main. Mais, il faut dire que sur ce qu'on a vu, lors de ce match contre Lille, c'est quand même pas mal. Alors, pourquoi c'est pas mal? Alors, déjà, le contexte. Le match qui est arrêté, le public qui saccage le Vélodrome, et puis Balotelli qui rentre et qui quand même redéclenche une sorte d'engouement au sein du public. Donc déjà ça c'est intéressant. Dans le jeu aussi il a été intéressant. Alors il n'y a pas que son but. J'ai trouvé qu'il a apporté 5 choses importantes pour un numéro 9 que ni Mitroglou ni Germain sont capables d'apporter depuis qu'ils sont à l'OM, à savoir de la qualité dans ses remises pour faire jouer ses partenaires. On l'a vu 2-3 fois faire des remises très intéressantes en pleine course de ses ailiers. De la disponibilité dans ses appels. Troisièmement, de la profondeur au jeu marseillais, chose que ni Germain, même s'il essaie un petit peu, ni Mitroglou n'arrive à faire. De la présence physique sur son but, hein, on a vu hein, les défenseurs de Lillois, ils se sont dit ah ouais là on a vraiment une vraie carcasse sur nous, c'est pas la même chose. Et puis aussi bah d'audace, il a tenté une ou deux frappes qui certes sont envolées, mais au moins il a tenté. Donc ça, 5 choses importantes qu'il a apportées en même pas 20 minutes. Mais le problème, c'est un problème de fond qui est à l'OM. Moi, je trouve que le jeu olympien, que ce soit l'année dernière où on s'est enflammé pour l'épopée européenne, et là même cette saison, alors c'est criant parce qu'il n'y a pas les résultats, et ben il a toujours été pauvre. Alors l'année dernière, ça a été sauvé par cette grinta, par cette envie, par ces échéances de Coupe du Monde qui font que certains joueurs se sont dépassés, mais ça n'a jamais été travaillé. Il y a trois choses alors après qui sont pour moi les piliers du jeu offensif d'une équipe. Alors après, ça dépend de la sensibilité, des goûts de chacun. Et moi, j'aime bien regarder trois choses qui me semble importante. La manière dont sur les côtés il y a la création de triangles pour offrir de la disponibilité aux porteurs de balles et des solutions dans la profondeur. L'occupation des demi-espaces horizontaux, c'est-à-dire à savoir comment les latéraux et les ailiers basculent pour créer justement de la largeur dans les phases d'attaque. Et la coordination justement entre les latéraux et les ailiers. Ces trois choses-là, moi, je les ai jamais vues d'une manière très poussée, très chiadée à l'OM. Alors, comme je l'ai dit, l'an dernier, ça a été masqué, il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués, mais par des choses, voilà, c'était de la grinta et de l'envie, et puis c'était un one-shot, quoi. Alors, moi, ce que je pense, c'est que l'arrivée de Balotelli, c'est là où je me méfie, c'est que ça doit pas être le pansement que tu mets sur une jambe de bois. Parce que, alors oui, s'il est motivé, je pense que t'auras deux effets immédiats qui ne relève pas tant de la capacité tactique de Rudy Garcia, que je trouve de toute manière rudimentaire sans faire de mauvais jeu de mots, mais qui dépendent en fait du talent des autres joueurs. Et je pense que ces deux choses-là, on va les avoir. Balotelli va apporter du liant dans l'axe, de par sa capacité à garder le ballon dos au but, et à libérer des espaces de par ses appels. Et il va fluidifier, je pense, le jeu avec ses ailiers, parce qu'on a vu notamment qu'il y avait, quand il est rentré, une très belle complicité qui commençait avec Clinton Enge. Mais moi, ce que je pense, c'est surtout, si tu veux aller loin, là, t'es quand même largué, c'est le bordel dans les tribunes, tout ce que tu veux, c'est qu'il va falloir travailler ton jeu offensif et qu'il va surtout falloir arriver à alimenter Balotelli d'une manière claire. Parce que pour l'instant, je vois pas les fondements et les bases dans le jeu de Marseille qui font que ça peut marcher. Alors qu'est-ce que j'aimerais voir dans les prochains matchs? J'aimerais enfin voir que les ailiers qui soient mis dans des bonnes dispositions pour apporter des centres à Balotelli. J'aimerais que les latéraux soient mieux, il y ait une meilleure coordination avec les latéraux et les ailiers pour justement apporter cette présence dans la surface de réparation et mettre des ballons dans l'axe. Et j'aimerais que certains joueurs qui pour l'instant ont la tête un petit peu dans le sac, et je pense notamment à Florian Thauvin qui, même s'il reste quand même intéressant dans le jeu, n'a pas marqué depuis le 13 décembre à Limassol, je pense qu'il y a certains joueurs, il va falloir qu'ils se remettent la tête en avant. Alors pour conclure, et vraiment je serai très court là-dessus, c'est que Balotelli qui est motivé, qui rêve à l'OM, c'est très bien. On s'en fout du contrat, on s'en fout du moyen terme. Pour l'instant, on peut en donner. Voilà. Mais pour que l'externalité positive de son transfert se matérialise dans les résultats et dans le jeu de l'OM,
il commence.
Il l'a fait qu'à la fin. J'ai même pas fait exprès. Il faudra pas se contenter de tout miser sur lui, de lui balancer des ballons, de lui dire allez débrouille-toi, comme on a pu le faire l'année dernière avec Florent Thauvin. Et j'attends de voir des réels progrès dans le jeu tactique de l'OM.
Très bien. Si vous êtes d'accord avec Jonathan Macardy qui se méfie de l'effet Balotelli, venez le dire au 32-16. Si vous n'êtes pas d'accord, venez également supporter de l'OM et pas que supporter de l'OM d'ailleurs. Ton avis là-dessus, Pierre? C'est vrai qu'il y a eu tellement finalement ces débats autour du grand attaquant et surtout de Balotelli. Ça fait plus de 6 mois qu'on en parle à l'OM, qu'on a l'impression que ça va résoudre tous les problèmes presque.
Non. On revient toujours finalement à une certaine logique qui est propre au sport collectif. En sport collectif, il faut une vraie équipe pour réussir à faire des belles choses. C'est aussi simple que ça. Alors, t'as toujours
après pour avoir une belle équipe, faut avoir toujours des bons joueurs aussi, mais
ouais mais faut pas inverser. C'est-à-dire que les cas où le collectif te permet de sortir des individualités, et ça a été le cas de l'OM l'année dernière, où il y a eu un véritable état d'esprit, il y avait un véritable collectif, et donc au sein de ce collectif t'as certaines individualités, et encore t'en as pas énormément, mais t'as un Thauvin qui est ressorti,
Payet sur 3 mois,
un Payet sur 3 mois
suspendu,
au bon moment,
en plus,
voilà des choses comme ça qui sont Gustavo qui est ressorti aussi du lot. Mais l'inverse est très rarement vrai. Citez-moi des situations, enfin, ou des saisons plutôt, pas sur un match, ça arrive des fois qu'une équipe passe au travers d'un match, et puis que t'as un bonhomme qui enroule une frappe, voilà, le talent individuel te sort du mauvais coup. Mais citez-moi une équipe qui, sur toute une saison, n'a pas d'esprit d'équipe, n'a pas de collectif, et où il y a un joueur qui tient l'équipe toute l'année, ou pendant 5 mois.
Les années pourries, non? Ça a été le cas,
Qui ça?
Paul était au PSG, les années pourries.
Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que Paris n'a jamais été champion. Paris n'a quasiment jamais accroché la Ligue des Champions
sur
ces années-là.
Il les sauve.
Mais non, il les sauve pas. Lui sauve un peu sa peau. Parce qu'il marque des buts, mais ça sauve
peut-être,
pas les années pourries de
2004, Marseille, Drogba. L'équipe était quand même faible.
Ouais, encore. Alors, on va toujours pouvoir essayer de trouver
des joueurs universels.
Mais globalement, la logique, elle est que quand il y a un collectif qui marche, oui, les individualités peuvent s'exprimer. Et effectivement, c'est pas Balotelli tout seul en arrivant là qui va pouvoir sauver quoi que ce soit. Sur le contrat court, je pense pas comme toi, par contre. Je pense que c'est peut-être quelque chose de bien pour l'OM d'avoir signé que cinq mois finalement Balotelli, parce que tu le sais, c'est un pari, voilà, c'est pile ou face. Soit effectivement ça démarre, il marque un but, il en marque deux, il en marque trois, le Vélodrome
sinon,
derrière,
son salaire, c'est ça,
collectivement, voilà. Ou soit ça marche pas du tout. Et si ça marche pas du tout et que tu l'as signé 2 ans et demi, un joueur comme ça, comment salaire, tu fais, bah t'arrives dans la situation,
je peux te rejoindre là-dessus, ouais.
Voilà, moi donc c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être pas fait que volontairement, mais c'est un mal.
Ce qui me gêne juste, c'est dans le projet, parce qu'on sait que c'est un projet, ils nous ont bassiné au M Champion Project, c'est dans la vision sur le moyen terme.
Il manque plein de choses, là. Il manque plein de choses.
Déjà, c'est d'accord. Surtout, tu recrutes quand même cher des joueurs, qui ont plus de valeur marchande derrière, hein. Payet, quand tu le payes le prix que tu le payes,
Strootman. Mais c'est surtout que là, on arrive à la fin d'un cycle, très clairement. Malheureusement pour l'OM, Adil Rami a donné ce qu'il avait à donner, je pense, derrière. Même Steph, qui est mon ami, je pense qu'il arrive aussi à la fin d'un cycle. Un Payet arrive à la fin d'un Tovin arrive à la fin d'un cycle un peu différent parce qu'il est pas.
Il veut progresser peut-être. Parce
voilà, je pense que la prochaine étape pour lui, elle est ailleurs. Elle est pas à l'OM.
Beaucoup de saisons à Marseille en plus déjà.
En plus, donc t'arrives l'air de rien à un moment où t'es en fin de cycle où tu devrais normalement commencer à arriver dans le projet qui était annoncé à quelque chose qui ressemble à ce que tu avais annoncé, ouais. C'est-à-dire te rapprocher de Lyon et Paris.
On va accueillir Renaud, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Renaud.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir Jonathan et bonsoir Pierre.
Bonsoir. Alors quel est ton avis, toi, sur l'arrivée de Balotelli, l'effet Balotelli qui visiblement draine pas mal d'espoir du côté de certains supporters de l'OM déjà?
Bien, je suis plutôt d'accord avec la très très bonne analyse que vient d'en faire Pierre, qui nous rappelle ô combien justement, avec beaucoup d'intelligence et de pertinence, que le football est un sport collectif. Je suis également tout à fait d'accord avec Jonathan. Moi, j'ai pas trop d'espoir, dans le sens où je pense que là, Marseille est plus dans la réaction que dans l'action. On achète Balotelli pour 5 ou 6 mois. Alors, je remets pas en cause ses qualités, parce que c'est un footballeur exceptionnel, hors norme, évidemment.
Tu m'entends?
Mais je pense qu'en 6 mois, il aura vraiment pas le temps de...
Ouais.
Il aura vraiment pas le temps de faire quelque chose sur les 6 mois. Il faut quand même qu'il s'adapte aux joueurs avec lesquels il va évoluer. Il y a un manque de temps qui est tout à fait évident. Bon, moi, je pense qu'on est plus sur de leur action qu'autre chose, donc j'y attends pas grand-chose. S'il y a des choses intéressantes, je dirais bravo, mais il faut pas s'attendre à grand-chose. Je pense que Rudy Garcia a réussi à donner le meilleur la saison dernière sur une équipe qui était... je veux pas être...
limité.
Une équipe qui est un peu limitée techniquement et qui se bat avec du mental. Et là, je pense que l'équipe est un petit peu fatiguée et on peut pas lui reprocher de ne pas pouvoir reproduire la saison qu'elle a donnée l'année dernière.
Et ça tient jamais plusieurs saisons, une équipe qui marche sur la grinta, sur l'envie, c'est pas
mais,
sur...
Mais Renaud, toi, tu trouves pas que Balotelli, là, pour 6 mois, c'est un bon coup pour l'OM, finalement?
4 mois, messieurs.
Ouais, même pas. Enfin, quand je dis 6 mois, c'est une demi-saison, quoi.
Moi, j'y crois pas trop. Pourquoi pas? Après, je veux dire, il faut pas être totalement négatif, mais je pense que si jamais il n'y arrive pas, il faut pas lui tomber dessus, parce que il lui faut quand même du temps pour s'habituer aux joueurs avec lesquels il va évoluer. Donc moi, je pense que ça va être un petit peu compliqué. On peut pas considérer que Balotelli va être tout seul le sauveur de l'Olympique de Marseille. Donc je m'attends pas à des miracles.
Après, en revanche, moi, ce que je pense, c'est que il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe, Florent Thauvin, Dimitri Payet, qui, même si voilà, il est régulier en général, il se réveille toujours au printemps. L'arrivée d'avoir Balotelli avec ses qualités, de garder le ballon dos au but, de d'occuper la profondeur, d'apporter de la densité physique, ça doit forcer Rudy Garcia à se servir de ses qualités pour enfin mettre quelque chose en place d'intéressant tactiquement. Ça doit pas être juste, vous balancez tous les ballons sur Mario et Flo Thauvin, tu vas nous faire un exploit. Non, ça marchera pas. Mais en tout cas, là, il a toutes les clés en main pour au moins essayer de redresser la barre en changeant quelque chose tactiquement.
Ce qui est évident, c'est que c'est une vraie plus-value par rapport à ce que tu avais avant. Ça, c'est une évidence.
Et moi, j'avais fait le pari que Mitroglou mettrait 15 buts en L1 cette saison. J'ai bien l'air con. Mais,
t'avais parlé
ça? Ouais, j'y croyais. Je pensais.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Faut reconnaître quand on dit des saucisses, hein.
Tu sais quoi?
Non, parce que moi, déjà, en jouant tactiquement comme joue l'OM, pour moi, c'est impossible.
Moi, je pensais qu'il est arrivé blessé, qu'il y a l'adaptation.
Il est trop isolé, c'est pas du tout son profil, quoi. Ouais. Parce que là où Mario Balotelli va quand même être capable de faire autre chose dans une position où parfois isolé, tu l'as dit, il a une présence athlétique, il a une vraie frappe de balle.
Est-ce qu'il est pas meilleur? Il a des compétences aussi.
Si, moi, je pense que
de toute manière, à deux devant.
Ouais, moi je pense que c'est un joueur qui mérite d'avoir un petit, tu l'as dit, avec Engie devant, parce qu'il a un jeu de remise, parce qu'il a cette présence athlétique qui va lui permettre de dévier des ballons, etc. Et il sera plus efficace. Mais On le sait, ça n'arrivera pas.
Mais bah tu vois, tu viens de citer le nom d'Engie. Vous savez que la Marseille, ils vont avoir quand même un autre dossier qui va être complexe à gérer avec l'arrivée de Balotelli.
Ouais,
mais ce sont les départs. Non, mais c'est surtout de savoir comment ils vont gérer. Parce que là, il va falloir Germain à Nice. Bon, bah, il faut que les nouveaux proprios soient d'accord. Mm-hmm. Mitroglou. Bon, bah, force est de constater que finalement personne n'en veut et qu'il a un énorme salaire.
Beaucoup de preneurs, ouais.
Et tu vas pas pouvoir garder tout ça et faire cohabiter tout le monde. Il y a ça aussi, hein, que peut-être Garcia va devoir gérer. Ouais. Hein, s'ils arrivent pas à se délester. Hein.
Moi, je pense que Germain, là, il s'embrouille, il donne des rendez-vous à des supporters, à la commanderie pour se bastonner. Et tout, je pense qu'il faut qu'il s'en aille pour son bien. Engie, j'ai jamais été fan, mais c'était intéressant son entrée contre Lille avec Balotelli. Après, il y a un point qui m'inquiète un petit peu, et je pense que les avancantes de Marseille en ont paradoxalement assez beaucoup souffert, c'est le positionnement de Florent Thauvin. Yes. Moi, j'aimerais voir Florent Thauvin dans l'axe et pas sur un côté, parce que quand il est sur un côté, il est pas sur son bon pied pour centrer, il joue avec un faux pied. Et je pense que tu vois, par exemple, les bons matchs que Mitroglou a pu faire à l'OM, bah, je les ai tous analysés.
Ça marchait mieux
sans Florent Thauvin.
Ça marchait mieux quand t'avais un Sakai beaucoup plus performant sur le côté droit qui peut effectivement passer dans un dos de Thauvin qui rentre un peu.
Voilà, pour mettre un centre.
Mais malheureusement, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu là.
Parce que moi, je pense que Balotelli, pour bien s'en servir, va falloir lui donner des ballons dans la surface, va falloir éviter de jouer 3 à la baballe, que les ailiers jouent 3 à la baballe, va falloir se servir de leur numéro 9, et j'aimerais bien voir un vrai droitier à droite.
Rollo, merci d'avoir été avec nous.
Tu l'as pas, je pense.
Bah, avec grand plaisir.
Merci, Rollo.
Juste aussi saluer l'ami Sakai qui est en finale de la Coupe.
Exactement.
Alors, j'allais dire, le Japon.
Ouais. Victoire 3-0 face à l'Iran.
Voilà, ils rencontreront en finale le vainqueur de Qatar
et
Émirats Arabes Unis, avec le Qatar qui fait un parcours incroyable avec 11 buts marqués, 0 but encaissé. Enfin, c'est assez incroyable, c'est assez intéressant cette Coupe d'Asie des Nations. Voilà.
Ouais. Ouais. Mais vivement qu'il revienne à Marseille. Hein,
il a été titulaire en face. Il est sorti. D'ailleurs, un quart d'heure de la fin, il avait des crampes, Hiroki Sakai.
Ouais. Voilà.
Et d'ailleurs, Sacher Queiroz a également annoncé son départ de la sélection de l'Iran. Ça faisait 8 ans qu'il était là-bas.
Ouais.
Alors, il est pressenti en Colombie. Hein. Ça fait un moment qu'on en parle, les gars.
C'est quasiment fait, apparemment.
Ouais. Salut, Renaud. Merci d'avoir été avec nous.
Bonsoir, Renaud.
Merci à vous. Ciao, Renaud. Et puis, bonne fin de soirée.
Merci à toi aussi. À bientôt, Renaud. Merci. C'est gentil. Merci.
Ciao.
Tiens, petite info également qui concerne l'OM. Alors, vous savez qu'il y avait eu des incidents lors du match face à Nice, hein, avec cette bombe agricole qui avait été envoyée au bord de la pelouse, le match qui avait été interrompu pendant près de 40 minutes. La commission de discipline a annoncé aujourd'hui un huis clos total au Vélodrome à titre conservatoire. Alors, le prochain match à domicile de Marseille, il est prévu le 5 février. Alors, a priori, puisqu'on attend la décision de la commission de discipline, la décision devrait être annoncée dans une quinzaine de jours, pas avant. Donc, le match face à Bordeaux devrait être joué à huis clos pour les Marseillais. Hein. Voilà.
Ça n'arrange rien, mais bon.
Bah, je me demande si ça les arrange pas.
Dans quoi, le contexte. Tu crois?
Dans le contexte.
Il y a rien de pire que.
Ah ouais, ça a toujours été pire pour moi de jouer dans un stade vide, de jouer face à un public même hostile, quoi.
T'as vu l'ambiance face à Monaco?
Ouais, mais tu sais quoi? Alors, enfin après, moi, c'est peut-être très personnel, hein, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui préfèrent, à la limite, pas de bruit que du mauvais bruit. Mais je pense que t'as toujours espoir, en tout cas, moi, j'étais comme ça, t'as toujours espoir de pouvoir retourner un public. Surtout à Marseille, où les gars n'attendent que ça, quand on est que ça joue mieux, que tu gagnes, etc. Moi, j'ai aussi vécu des matchs pas faciles au Paris Saint-Germain. Je me suis jamais dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais jouer sans le public, jamais.
Mais t'es une autre génération.
Ouais, peut-être.
Dans quelques instants, on ouvrira le dossier Neymar, alors qu'il sera forfait pour le 8e de finale de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Manchester United. Êtes-vous inquiet pour le PSG pour ce 8e de finale sans Neymar? On vous attend 32-16 avec Pierre Ducrot, avec Jonathan Macardy pour y répondre. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Jonathan Macardy, vous êtes avec nous également sur le hashtag RMC Live. Vous êtes également avec nous sur l'application Direct Studio. Venez poser vos questions. Les drôles de dames seront là d'ailleurs dans une demi-heure maintenant. On a fait la vie tranchée de Jonathan sur Balotelli. Il se méfie de l'effet Balotelli du côté de l'OM. Jonathan, on va ouvrir un petit débat les gars qui concerne Neymar. Alors hier, Xavier Desfarges nous révélait sur RMC que Neymar serait forfait pour le 8e de finale de Ligue des Champions à Old Trafford. Alors le 8e de finale, allez d'abord. Les dernières infos qui concernent le Brésilien, laissent présager qu'il sera également forfait pour le 8e de finale. Retour, il est touché au 5e métatarse du pied, on le rappelle. Dans les prochaines heures, la décision d'une éventuelle opération va être prise par les médecins du Paris Saint-Germain et de la Seleção également de la Confédération brésilienne de football. La question, est-ce que vous êtes inquiet pour le PSG pour ce 8e de finale sans Neymar justement, ou est-ce que finalement Paris Paris peut, doit le faire sans Neymar pour ce huitième de finale face à Manchester United.
Vas-y, vas-y, mon Joe. J'ai déjà répondu. Moi, je vous dirai ce que j'ai dit.
Moi, déjà, ce qui me gaffe, c'est l'ingérence de la fédération brésilienne dans la gestion des blessures de Neymar. Donc déjà, ils ont fait la connerie l'année dernière de leur faire confiance. On a vu que ça n'a pas été couronné de réussite forcément. Donc maintenant, je pense que le PSG doit un petit peu les poser sur la table et dire à la fédé brésilienne d'arrêter de venir se mêler de ce qui ne les regarde pas. C'est Paris qui signe les chèques à la fin du mois, hein. À ce que je sache, Neymar a un très beau salaire et c'est pas la fédé brésilienne qui les signe.
T'as un autre rapport avec entre joueurs et Célestin.
C'est arrivé une fois, je veux bien. T'as vu que ça a
pas été de l'ingérence. Je pense qu'ils ont, ils composent les uns avec les autres.
Bah, là, le problème, le deal, c'est que ça, apparemment, c'est que Paris pousse pour l'opération. Les Brésiliens veulent pas d'opération, ils veulent un traitement un petit peu moderne, mais un petit peu exotique. C'est en injection de masse graisseuse. T'as Tourelle qui commence à s'énerver et qui veut ramener un spécialiste d'Allemagne pour un avis. Et c'est quoi, on joue à Docteur Maboul ou quoi? Donc je pense que Paris doit un petit peu remettre l'église au centre du village et envoyer paître surtout la sélection brésilienne. Après, est-ce que Paris peut le faire sans Neymar?
Il vaut mieux avoir deux bons spécialistes plutôt
qu'un.
Oui,
moi je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. Après s'il y a une divergence dans le diagnostic et surtout dans le protocole de soins, c'est Paris qui doit trancher.
Mais ils sont en pleine divergence, c'est ce qu'on sait. Paris doit trancher. Après, Manchester United, depuis que, comment il appelait déjà, Babyface Killer, c'est ça, et sur le banc.
Ouais.
C'est 8 matchs, ils ont gagné contre des grosses équipes. Ils ont encore gagné contre Arsenal ce week-end.
Bah, 8 matchs, 8 victoires.
8 matchs, 8 victoires. Ça redevient une, alors, une
les
belle
deux grosses équipes, c'est Arsenal. Là,
et Tottenham,
qui a pas été un Arsenal énorme, honnêtement, et Tottenham, qui a ce jour-là gâché, mais au niveau efficacité offensive, ça a été un truc de fou. Je crois que c'est le match où De Gea a eu le plus d'arrêts à faire. Alors il en fait deux ou trois de grande classe, et puis il y en a sept ou huit qui sont faits où c'est des frappes sur lui, alors qu'il y a beaucoup mieux à faire. Mais bon, voilà, il y a une part de réussite aussi un peu quand même.
Moi, ce que je vois, c'est que Paris, en termes de style. Tu vois, on dit que c'est en sport de combat, on dit c'est pas la qualité qui fait les affrontements, mais c'est les styles, tu vois. Et là, je pense qu'en termes de style entre Paris et Manchester United, Paris doit passer contre Manchester, même sans Neymar. Et ils ont une charrette au cul derrière à Manchester. Et à Paris, il y a tellement de vitesse, tellement d'armes en termes de verticalité que c'est l'adversaire idéal.
Même au-delà du style, hein, au niveau même de la qualité des joueurs.
Oui, aussi. Ouais. Après, Manchester peut-être les embêter parce qu'ils ont ce milieu de terrain très costaud, très dense physiquement, que Paris n'a pas forcément. Et dans le combat, on sait qu'ils seront là. Mais Paris, même sans Neymar, je suis désolé, ils sont au-dessus de Manchester et je m'en fais pas vraiment de soucis. La seule chose que j'espère, c'est que Neymar soit très bien soigné.
On a Armel qui nous dit sur le hashtag RMCLive, rassurez-moi, Cavani, Mbappé, Di Maria, Buffon, c'est pas des pipes, non? Pourquoi on devrait paniquer?
Tu peux rajouter Draxler, tu peux rajouter Thiago Silva qui est en grande forme en ce moment, tu peux rajouter même un Kerrer ou un Marquinhos qui sont très bons aussi.
Verratti doit reprendre l'entraînement cette semaine, sachez-le. Alors vous savez que Paredes devrait être officialisé incessamment sous peu, on espère que ce soit d'ailleurs aujourd'hui, on s'attendait à ce que ce soit aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain qui avait fait une offre pour Idrissa Gueye également, le milieu de terrain d'Everton.
Mais si on parle de Manchester, tu peux oublier Paredes et Idrissa Gueye.
Marco Silva a confirmé aujourd'hui en conf de presse qu'il y avait une offre du Paris Saint-Germain qui avait été refusée par les
24 millions, je crois, ouais. Effectivement.
Et Doucouré, ils sont plus dessus.
Non, après c'est pas vraiment le même profil.
Non, mais, je sais.
Ils le suivent toujours Doucouré, mais il y a pas eu de. De toute façon, Watford ne lâchera pas cette année, visiblement.
Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est ce que j'ai dit il y a deux heures et même hier d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, le match est forcément moins facile quand il te manque un garçon comme Neymar. Mais rien n'est impossible. Et si ça devait être impossible, à ce moment-là, il faut arrêter tout de suite, quoi. Si contre Manchester, une équipe qui est mieux, voilà, qui est en phase de guérison par rapport à ce qu'elle a connu avant. Et encore que, je rajouterai quelque chose après, mais elle est en phase de guérison, elle est dans une dynamique positive, mais il y a encore tellement de choses qui vont pas encore dans cette équipe.
La lourdeur
de quasiment tous les défenseurs derrière du côté de Manchester. C'est-à-dire que c'est pas une charnière qui est lourde.
C'est Luke Shaw
qui va être face à Mbappé. Oh là si là Mbappé là. dans un duel, dans une double confrontation, aller sur les deux matchs, s'il passe pas, mais 6-7 fois mais tout seul et ou alors en faisant des appels dans son dos, je sais pas, il se débrouille, mais c'est limite un scandale parce que Luke Shaw, on le voit tous les week-ends,
il va lui faire l'amour, hein.
C'est très très lent. Alors il y a du vice, il faudra faire le bon match parce que ça reste Manchester au milieu. Derrière, il faudra être costaud parce qu'il y a des éléments qui sont offensivement à Manchester intéressants, mais honnêtement, si le PSG est à son niveau offensivement, il doit faire la différence. C'est pas possible autrement, ou alors c'est qu'on a du côté du Paris Saint-Germain toujours pas compris l'exigence de ce genre de match dans la tête.
Mais ça m'étonnerait. T'as vu les matchs de poule
qu'on a du côté du Paris Saint-Germain toujours plus rien à faire pour l'instant cette saison en Ligue des Champions si tu passes pas contre Manchester avec ou sans Neymar.
Tu voulais rajouter un petit truc, t'allais dire.
Oui, j'aurais presque pu craindre plus le Manchester de Mourinho sur une double confrontation comme ça, avec par exemple un Manchester très derrière, bas, très compact, vrai. Très organisé, sans réel
chiant à jouer,
plan de jeu offensif, mais qui est capable de planter un but ou deux comme contre la Juve en phase de poule.
Exactement.
Ce genre de match, j'aurais presque pu craindre un peu plus ça qu'un Manchester.
Non, mais t'as raison.
Qui va être avec un bloc médian bas là à mon avis, mais qui a envie maintenant et qui a des prétentions pour jouer au foot et donc laisser des espaces, ce qui correspond plus à mon avis.
Ils vont jouer avec le milieu, je pense. Manchester.
Ouais. Bah Pogba sûr.
Ouais, sûr.
Herrera
joue.
Pogba, Herrera. Ouais. Et Matic. Mais Matic c'est pareil. Matic, quand tu vois la forme aujourd'hui de Draxler, Di Maria, honnêtement, ça peut déposer un Matic.
Ouais.
Celui au milieu qui me ferait le plus peur, moi, c'est Pogba. Mais encore faut-il qu'il dans un match un peu spécial contre le Paris Saint-Germain.
Après attention, physiquement, ils peuvent leur causer des problèmes au milieu. Tu sais.
Matic est malin. Matic est très malin, très expérimenté, mais physiquement.
C'est plus que c'était, voilà, à ce niveau-là.
Petite parenthèse Ligue 2, les gars, on va aller retrouver Lucien Denis au stade de l'Aube. 3 Lens affiche de la 22e journée de Ligue 2. On en est où, Lucien?
Ah, il reste 3 minutes à jouer. Ce but marqué par Fortuné à la 57e pour les Troyens peut permettre à l'équipe de Rui Almeida de faire une très très belle opération puisqu'ils sont actuellement, 10e avec 31 points. Ils reviendraient à 1 point du 5e, du 3e, pardon, qui est le Racing Club de Lens. C'est dire si l'opération serait belle. Par contre, pour les Artésiens, ce serait une nouvelle fois, une grosse déconvenue puisque pour l'instant, il reste une minute à jouer dans le temps réglementaire et que c'est l'équipe de 3 qui mène face à Lens, 1-0, Kevin Fortuné à la 57e, pardon.
Merci beaucoup Lucien. Êtes-vous inquiet pour le Paris Saint-Germain pour ce 8e de finale de Ligue des Champions sans Neymar? On va accueillir Yacine pour nous aider à répondre à cette question. Salut Yacine.
Bonsoir Nico, bonsoir Jo et bonsoir Pierre.
Ah Yacine, salut Yacine. Alors comment t'as accueilli cette nouvelle toi Yacine? Alors même si on se doutait, on parlait déjà hier, que Neymar serait absent au moins pour le 8e de finale aller, visiblement pour le retour aussi.
Un minimum.
Voilà.
Bah d'un côté c'est plutôt, maintenant il faut faire avec, voilà, on va pas le remettre sur pied. Alors du côté du PSG, on veut plutôt, alors il y avait des avis qui sont divergents, d'un côté on veut une opération, de l'autre on veut plutôt une consolidation progressive. Mais le problème, c'est qu'il y a opération, il a out quasiment jusqu'à la fin de la saison. Donc, il pourrait même qu'il joue peut-être le quart retour si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Bon, après, il faut voir l'évolution, mais si tout se passe bien. Et encore, c'est pas sûr. On va voir. Mais d'un côté, c'est plutôt positif parce que il y a un avantage cette année, c'est que Tourelle maîtrise son groupe, en tout cas. Il se fait entendre de ses joueurs. Là, il a un petit peu bricolé ces derniers temps au milieu de terrain parce qu'il est obligé, il a pas de joueurs.
Mais maintenant, il a très bien bricolé.
Ce qui va entre guillemets nous rassurer, comme je l'ai dit, c'est si il y a deux joueurs au milieu de terrain, ça va le faire. S'il n'y a pas de joueurs, ça sera très compliqué, tout simplement. Mais je dis bien deux, hein, pas un, deux. Paredes, ça suffira pas parce que Paredes, c'est pas un 6, c'est un 8.
Il a été formé au poste de numéro 6.
Oui, mais
et jouer numéro 6. Voilà. Tu nous disais au campus, il a été formé au poste de numéro 9 aussi.
Ouais, c'est vrai.
Attention, c'est un super joueur.
Yacine, tu sais, on se disait, Paredes, c'est un petit peu Banega. Voilà, oui. Formé devant la défense au pays et qui on a fait jouer en Europe plus haut sur le terrain.
Exactement, mais et il faut absolument faire pour ça qu'ils sont à la recherche d'un Suisse. Et l'idéal, oui, c'est vrai que bon, après, bon, l'idéal, on va pas parler d'idéal. Enfin, quand je dis idéal, il faut la joueur qui peut vraiment nous dépanner, c'est vrai qu'Idrissa Gueye, dans le terme de dans ce profil de ratisseur, peut vraiment faire du bien.
Pour toi, Yacine, excuse-moi, je te coupe deux secondes. Paredes qui arrive maintenant et un Idrissa Gueye qui arrive dans deux jours.
En termes de forme, ils y seront maintenant, c'est sûr.
Il a pas joué depuis décembre, Paredes.
Mais moi, je vous dis qu'il y a un autre critère que ça, messieurs. C'est aussi que Tourelle veut ces garçons-là pour toute la fin de saison. Mais je vous dis qu'il les alignera pas contre Manchester parce qu'il a son équipe, parce qu'il a ses garçons et qu'il va pas vouloir casser ce groupe qui est en train de naître du côté du PSG.
Est-ce que vous rappelez pourquoi Paredes le dernier match de Paredes
avec le Zénith?
Ouais. Et bah c'est là où il fait exprès de prendre un carton rouge pour pouvoir aller assister à la finale Boca River.
Ah oui.
Ouais.
D'accord, c'est bon ça.
Ah, je savais pas. Vas-y Yacine.
Moi je savais pas non plus. Mais peut-être s'il a un petit manque de forme, je pense que ce doit pas être bien méchant. Tu me dis qu'il a pu jouer puisque le championnat russe finit tôt là pour le coup. Je crois que c'est la trêve. Ils étaient en stage du côté de Doha.
Ouais.
Donc bon, Idriss Agueil, si tu le prends, lui pour le coup il est en forme. Après il faut que collectivement ça prenne. Tourelle, tu me dis Pierre qu'il ne les alignera pas. Peut-être, mais alors si tu pars avec Marquinhos, alors on va essayer de faire le milieu de terrain. On partirait quoi avec Marquinhos,
Verratti,
et puis tu mets
Draxler.
Tu mets qui?
Tu peux avoir sinon un Draxler Marquinhos ou Draxler Verratti suivant si Verratti est.
Dans le milieu de terrain qui défend.
J'aurais pu être d'accord avec toi, sauf que cette saison, je dis pas la même chose. Et regarde le match qu'on fait à Naples.
Exactement.
Avec Draxler.
Draxler
sait faire. Alors je te dis pas que c'est une solution sur toute la fin de saison forcément, mais sur un match comme ça.
C'est un sacré pari. Hein.
Ça peut le faire.
Ouais, parce que tu peux te faire bouger contre United.
Draxler. Non.
Je mettrais quand même. Dans l'absolu, je mettrais quand même.
Bien
si
milieu.
Tu le prends, je mettrais quand même Gueye. Si tu le prends, je le mettrais quand même.
Ouais, ça reste une solution.
J'aime beaucoup Draxler au milieu.
Solidité comme ça, parce qu'on sait que Verratti, c'est pas.
Défensivement, je le trouve solide Draxler au milieu.
Moi, j'aime beaucoup.
Yacine, moi Draxler, je trouve qu'il a quand même les fois où il a été aligné au milieu de terrain.
Il est bon en ce moment.
Il a quand même apporté des garanties défensives.
Il est intelligent en plus. Il est intelligent.
Un joueur de ballon, on
est. J'avais fait le parallèle plusieurs fois, mais pour moi, j'ai l'impression. Ça me fait un peu penser à l'évolution de Bastian Schweinsteiger. Vous vous rappelez qu'il jouait très ailier, très haut sur le terrain, qui a reculé petit à petit au milieu.
Et Draxler, quand il est à ce poste-là, quand physiquement il est capable de l'être, comme il a été contre Naples, il apporte autre chose, c'est que dans sa première passe, il est très très efficace et très très simple.
Et je me permets, messieurs, point positif pour Draxler.
Bien sûr, vas-y.
Dans les gros matchs, il a toujours été très bon.
C'est vrai.
Contre le Barça il y a 2 ans, il est énorme, surtout au match aller. Il fait des efforts considérables. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, par rapport au championnat, c'est vrai qu'il a jamais été décevant.
Donc, techniquement, on minimise souvent.
Ce qui peut me rassurer, c'est que je sais que tactiquement parlant, je sais qu'avec Tourelle, normalement, il n'y aura pas de problème.
Non, mais même, attendez les gars, mais même dans l'impact et défensivement, moi, je pense que voilà, c'est une idée reçue, hein, mais je le trouve bon.
Ouais.
Même Juan Bernat, hein. Juan Bernat, bon, en championnat, il a un peu de mal, mais en Ligue des Champions, c'est plutôt sérieux, hein. C'est un bon joueur de ballon.
Ouais, à Naples, il est là et tout. Après, c'est défensivement qu'il n'est pas là,
pipe,
mais.
Etc. Bon, Kerrer, il met 2-3 mains. Il met 2-3 mains. Boateng, regardez Boateng des fois jouer. Il fait des erreurs, mais des fois de débutant, tu te dis, mais c'est pas possible.
Ouais.
Et regardez des fois dans les matchs importants ce qu'il fait, c'est plus le même joueur. C'est pour ça que je dis, bon, faut quand même se méfier, faut pas prendre le championnat comme référence.
Non.
Ça veut tout dire et rien dire. Donc,
le vrai souci pour moi, c'est l'état de forme de Marco Verratti.
Oui. Ouais. Mbappé dans l'axe, pas possible. On le laisse à gauche, c'est très
non,
bien.
Non, bien sûr.
Voilà.
Et puis il va faire l'amour à Lucho.
C'est bien aussi.
Ou à droite, ouais. À droite,
voilà. Avec Lucho. Et puis Meunier, on remet Alves. Parce que bon,
Meunier, il est pas là.
En ce moment, il est pas dedans, donc.
Il dort. Meunier, il joue pas.
Meunier, il dort.
Et là,
c'est un petit.
C'est très bien. C'est très bien comme ça.
Yacine, merci d'avoir été avec nous.
Merci
Yacine. Moi, je te fais un gros bisou et je bois un coup à ta santé ce soir. Pourquoi?
Carrément.
Je sais pas ce que tu vas voir, quoi, du whisky.
Ah ouais, c'est avec modération. C'est une petite connaissance ou non?
Non, comme ça. J'ai écouté les podcasts.
De bons alcools, en particulier le whisky, mais pas du whisky bas de gamme.
D'accord.
Pas du whisky de grande surface, on va dire.
Merci Yacine.
Whisky a mis à 50€ la bouteille, quoi.
Combien tu l'as payé tes bouteilles?
Bah, il y a Jean-Marc.
Il y a Jean-Marc qui fait des cadeaux, d'accord.
Ouais, sans Jean-Marc.
Allez, encore une bonne bouteille. C'est l'avantage du whisky par rapport aux autres alcools, c'est qu'une bonne bouteille à 40-50 balles, t'as quand même un truc qui est très
tient la route.
Qui tient, qui peut être très
bon. Exactement, c'est vrai.
Pas que c'est au Japon qui se. Non, ça c'est un effet de mode et c'est surpricé.
Ah ouais.
Non, c'est un effet de mode et c'est survendu. Non, le meilleur bon whisky, c'est
écossais.
Écosse, voilà.
Ouais.
Écosse.
Ouais.
Merci Yacine. Ciao Yacine.
Bonne soirée.
Ciao Yacine. Merci d'avoir été avec nous dans quelques instants. L'avis tranché de Pierre Ducrot qui concerne Jardine avec le retour de Jardine. Monaco prend encore
le whisky portugais. Tient-il la route?
Ah, je sais même pas, tiens. Alors je sais que les Anglais sont très friands du vin de Porto.
Moi j'aime bien le Porto, mais le.
Je déteste moi.
Il y en a du très bon du Porto, mais
c'est sucré.
Le très bon Porto coûte très cher.
Ah,
comment c'est ce Porto, la larme du Christ?
Tu sais que c'est le préféré de ma maman.
La grima de Christ.
La grima de Christ.
C'est qu'il y a du Tony, bon, du. Enfin, il y a plein de. Mais le très bon Porto coûte très cher.
Bien sûr.
Ouais.
C'est vrai. Consommer avec modération. Je vais me faire défoncer, moi. L'after vous attend dans quelques instants avec l'avis tranché, donc de Pierre Ducrot, avec Jonathan Macardy aussi. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et puis dans 20 minutes, un peu plus de 20 minutes exactement, nos drôles de dames seront avec nous. À tout de suite.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Jonathan Macardy et Pierre Ducrot et vous également sur le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio bien sûr, et puis le 32-16, la vie tranchée de Pierre Ducrot, c'est maintenant.
Tout le monde.
on est un peu plus vulgaire. Je crois que c'est à cause de Pierre Ducrot, c'est le pire, que j'aime beaucoup en tant que commentateur. Et au lieu de dire qu'on s'en mord les machins, on peut se dire qu'on s'en mord les doigts.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les
T'arrives à le faire?
On met une gode, quelque chose, comment tu fais?
Ah non, j'ai jamais essayé, je t'avoue.
Physiologiquement, ça.
Non, parce que j'ai jamais été coach de Lyon, donc du coup, j'ai jamais essayé.
Monaco a perdu 2-0 ce week-end à Dijon et reste avant-dernier de Ligue 1. Alors avec 3 points de retard sur la 17e et 18e place, puisque quand il y a bien sont à égalité. L'ASM qui a fait revenir Jardine à la place d'Henri. Jardine qui avait été remercié en octobre dernier doit maintenant assurer le maintien de Monaco en Ligue 1. Jardine, tiens, qui était en conférence de presse aujourd'hui. Alors il pensait pas revenir si vite, écoutez-le.
On n'est pas 3 mois après. Ça, que moi, ça, je n'ai pas pour dire, mais peut-être 3 ans, 4 ans. J'imaginais, j'ai parlé ça publiquement, que ça me plaît, et un jour, je suis sûr que je vais revenir. Parce que je pense nous faire un très bel travail pour différentes années. Nous rester toujours droit contre la personne, honnête, et normalement c'est comme ça.
Voilà, Jardine 2, le retour. Et toi tu dis, Pierre, avec le retour de Jardine, Monaco prend encore un risque.
Ouais, tu sais, et peut-être que les gens qui nous écoutent savent combien j'admire Jardim, combien je l'aime même, je le trouve excellent.
Je l'aime.
Non mais et je commence pas comme ça pour le tailler après, c'est pas du tout le but dans mon avis tranché. Non, je le trouve excellent, c'est un bâtisseur de groupe, il l'a prouvé maintes fois, en tout cas pour nous Français. De quoi ?
C'est cliché ça.
Bâtisseur de groupe, j'ai dit, pas de, hein. C'est toi qui le. C'est un homme qui est un coach, en tout cas, qui sait tirer le meilleur de chaque joueur qu'il a avec lui. C'est d'ailleurs et c'est toi-même aussi qui me l'a dit. C'est d'ailleurs ce qui lui plaît le plus dans son métier d'entraîneur manager. C'est pas forcément le résultat, la finalité. C'est tirer la quintessence de chaque joueur pour emmener son groupe le plus loin possible. Et comme par hasard, souvent il y a des bons résultats. Sauf que Jardim a toujours connu des situations où ces groupes jouaient autre chose qu'un maintien, et il est arrivé dans ces groupes-là au début de quelque chose à construire, pas quand il reste 4 mois et dans une situation de pompier de service. On peut reprendre toute sa carrière, on en a parlé un petit peu. Tu me dis si je me trompe sur les prononciations, mais c'est à Chaves, c'est une montée de 3e en 2e division, à Beira-Mar, c'est ça? Je suis bien.
Club d'Aveiro,
Beira-Mar, super.
Historique, hein,
club historique, mais il fait une montée aussi de seconde division en première division.
Et alors en D1, il se barre au milieu de la saison, au final. Le club est pas mal avec Beira-Mar, mais il reste pas jusqu'au bout.
Il s'en va à Braga. Braga, ça joue le haut du classement. Ils sont troisième. À l'époque où il arrive troisième avec Braga, c'est pas non plus la chose la plus facile. Il s'en va à l'Olympiakos. Là, on n'en parle même pas. Oui, c'est une équipe qui joue le haut de tableau. C'est construit pour ça. Et il s'en va. Il s'en va parce qu'il est indifférent avec ses propriétaires. Mais il s'en va avec 10 points d'avance sur son dauphin. Il revient au Portugal au Sporting, Ligue des Champions. Ça faisait 5-6 ans que ce club-là n'avait pas vu la Ligue des Champions. Il arrive à Monaco, on fait rapidement le truc, mais c'est troisième Ligue des Champions de la première année.
Il fait toujours pour votre podium.
C'est troisième la seconde année. C'est champion de France et Ligue des Champions en demi-finale la troisième année. Et c'est deuxième la quatrième année. Il a toujours connu le haut. Et c'est en ça que mon avis tranché porte. C'est que j'ai l'impression que Monaco fait une troisième erreur. C'est-à-dire que Jardim n'est peut-être pas programmé pour ça. Alors j'espère qu'il me fera mentir. J'espère qu'il sait aussi être un pompier de service parce que ça n'a rien à voir finalement. Le métier pour lequel il est vraiment très doué depuis une quinzaine d'années n'est pas le rôle qu'on va devoir lui donner là pendant 4 mois. Là, tu t'en fous presque des compétences tactiques, de ce que tu vas faire devenir tel ou tel joueur, de qui tu vas pouvoir sortir, en tirer la quintessence, parce que à côté de lui, ça va en amener un autre, etc., etc. Ce qu'il adore lui. Non, là, il va falloir que tu mettes peut-être les joueurs qui ont le plus de, pour notre auditeur Guillaume, le plus de. Ouais, mais là, je peux pas mettre les doigts à la place c'est problématique.
Le plus de burnes, allez, dis-le.
Le plus de courage. Voilà, exactement. Le plus de burnes sur le terrain. Enfin, c'est une mission complètement.
Si les burnes,
ça passe, non?
Bah, ça
non, c'est familier. C'est familier, mais c'est pas vulgaire.
De testicules. Soyons voilà.
Allons-y.
Franchement, burnes, c'est bref. Moins vulgaire que couille.
Bref, c'est un pari. Oh oui, non, quand même.
Oui.
Oh oui.
Ah ouais.
Ah bah oui.
Bon ok.
Bon enfin bref.
Pardon,
c'est pas le propos de. C'est pas le fond de mon avis tranché. On va pas s'arrêter là-dessus. Je pense que Monaco prend un énorme risque. pas parce que Jardim est un incompétent, pas du tout, c'est, vous l'avez bien compris. Mais le contexte est complètement différent. Alors, je suis pas sûr.
Il est jamais arrivé en cours de saison au sein d'un club.
Jamais, et jamais dans ce contexte-là, en plus, quoi. Et je suis pas sûr que t'avais pas plus intérêt, quitte à faire une première erreur, c'est-à-dire virer Jardim, quitte à en faire une deuxième, prendre un garçon inexpérimenté comme Titi Henry dans ce contexte-là. Plutôt que d'en faire une troisième là, peut-être prendre quelqu'un.
Pascal Dupraz.
Alors le problème, tu sais, quand j'ai fait mon avis tranché, je me suis dit tiens, si j'étais les dirigeants, qui sait que je prendrais. Je cherche toujours, messieurs. C'est pas évident non plus.
Roland Courbis,
hein, il est là. Non mais des vrais.
Franck Passy, il est là.
Ouais, il a pas non plus une grande expérience de ça.
Bah Roland.
Ouais, alors voilà. Après vous faites votre choix, voilà. Mais je me demande si ça aurait pas été moins risqué sur 4-5 mois là de prendre quelqu'un comme ça que de prendre un Jardim qui découvre ce rôle là finalement.
Mais au final, parce que c'est ce que tu dis, ils ont fait une erreur, mais c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit dans le fameux communiqué quand ils annoncent le retour.
Oui,
de Jardim, ils le disent
d'ailleurs.
Le communiqué qui est pas très long, mais à deux reprises ils expliquent, voilà, on a fait une bêtise, on l'a viré finalement Leonardo Trotto, ce qui en plus est allez un petit peu maladroit vis-à-vis de Thierry Henry. C'est en gros voilà, merci beaucoup Thierry Henry pour tout ce que t'as fait, mais au final on a fait une connerie, on aurait dû virer Jardim. Et ils le disent deux fois dans le communiqué.
Ouais, mais c'est
surtout
un peu
ne pas dû prendre Thierry Henry.
C'est les deux, en fait.
Ouais.
La première erreur emmène la seconde. Et encore que, on va pas être hypocrite. Moi, Thierry Henry, j'étais pas persuadé que ça n'allait pas marcher,
j'étais sûr.
À la SM. Tu vois, t'étais sûr?
J'étais sûr.
Moi, j'étais pas sûr, honnêtement. Hein.
Moi, pas forcément en termes de résultats, mais c'est vrai qu'on en parlait.
Comportement.
Comportement, c'est peut-être un mot fort, mais on va dire la communication.
Ouais, mais sauf, voilà, la communication. Sauf que, c'est ce que je te disais.
Sur le premier match.
Oui, mais tu sais quoi, c'est ce que je disais en off aujourd'hui. Je sais que Thierry Henry est quelqu'un de profondément intelligent et malin, et je sais aussi qu'il avait peut-être cette attitude parfois quand il était joueur, comme il était très très fort, un petit peu hautaine, ou un petit peu être au-dessus des autres, mais parce que en tant que joueur il pouvait l'être. Là, je me suis dit, il est suffisamment intelligent et malin pour se remettre au même niveau que tout le monde, parce qu'il débute sa carrière de numéro 1 dans un club en tant qu'entraîneur, et finalement non, il l'a pas fait. Il a toujours eu cette
besoin d'être empathique et d'aimer tes joueurs.
Bien sûr,
tu vas réussir. Et je pense
bien
que
sûr.
Ça,
mais je le pensais assez malin pour le faire tout de suite à Monaco. Je pense que ce serait une bonne leçon pour lui.
Pour moi, et je vais ajouter une quatrième erreur, c'est que quand je pense que Monaco pourrait jouer, alors j'ai griffonné ça, hein, mais admettons jouer en 4-4-2 avec un milieu vainqueur, Fabregas, Rony Lopez, Martin sur les côtés, et Falcao, Jovetic ou Falcao. Et comme ça se murmure peut-être Chicharito, je me dis que en fait la quatrième erreur, c'est pas d'avoir embauché un préparateur physique digne de ce nom, parce que tu peux pas non plus aussi te dire que c'est un accident d'avoir autant de blessés. Donc ceci étant dit, je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. Après, le problème, c'est que tu voulais prendre qui sur le marché?
C'est une réelle difficulté.
Pour un entraîneur qui connaisse la Ligue 1, qui soit adapté au contexte un petit peu feutré de Monaco. Et le petit doute que j'ai, le petit doute positif que j'ai, c'est que quand même Jardim. C'est Jardim, comme on dit.
Tu le dis bien.
C'est un entraîneur qui a quand même su relever différents challenges depuis qu'il est à Monaco.
C'est un homme de challenge,
voilà. On lui a vidé la moelle de son équipe plusieurs fois à l'intersaison, et il a quand même réussi à chaque fois à finir dans le podium, sauf cette année-là. Mais la saison n'est pas encore terminée.
Mais il le sentait déjà pas en début de saison.
Une des raisons de son départ d'ailleurs. Il n'y a pas que parce que certains disent son discours passait pas.
Ouais,
le sentait
bien sûr.
Le mec le sentait déjà pas.
Lui-même le sentait plus.
Mais je pense qu'il a prouvé qu'il était capable de relever des challenges dans des conditions qui sont pas forcément confortables. Comme à chaque intersaison depuis qu'il est à Monaco, donc voilà, quitte à faire venir quelqu'un, je pense que celui qui vienne.
Là où je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire c'est un constat, il a jamais fait le pompier de service ni rien, mais c'est vrai ce que dit Jonathan, finalement c'est un mec qui est tellement pragmatique, qui s'adapte tellement aux situations dans lesquelles
il va s'adapter à celle-là.
Je
lui souhaite honnêtement.
Comme il a accepté d'ailleurs le challenge de Monaco qui était sur le long terme, et justement de tirer la quintessence, de valoriser des joueurs, faire du trading, de faire podium tous les ans, d'ailleurs il le sentait pas cette année. Là je me dis
il peut peut-être adapter à ça aussi.
Vu comme il est intelligent, s'il accepte d'y retourner, alors que il aurait très bien pu rester peinard chez à Monaco, attendre qu'une offre arrive cet été, je me dis c'est qu'ils sont le truc.
Et on va même ajouter un truc, c'est que son pragmatisme il se traduit dans le jeu, dans ce qu'il met en place avec ses équipes tactiquement. Vous vous rappelez, il y a des saisons où Monaco c'était hyper chiant,
puis
l'année où ils sont champions c'est hyper flamboyant. Donc je pense qu'il a
l'intelligence
pour faire avec ce qu'il y a avec Matos qui va
ressouler. J'espère que vous avez raison.
Accueillons Mathieu, supporter de Monaco, qui nous a appelé au 32-16 et qui est donc en direct avec nous dans l'after. Salut Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Alors Mathieu.
Écoutez, moi, je vais vous surprendre. Je vais développer trois points en disant que l'arrivée de Jardim, pour moi, c'est très positif et je suis convaincu qu'on va se sauver. Je vais vous développer ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui connaît le club, qui avait plus d'idées en fait en étant limogé, mais en même temps, on peut plus avoir d'idées quand on vend tous les cadres de cet entraîneur-là. Il avait demandé à ce que certains joueurs restent, ça s'est pas fait. Les dirigeants ont fait une erreur. Bon, Thierry Henry, ça a pas marché. Lui, il revient. Là, si on se sauve, je pense qu'il va se sauver. Les dirigeants, ils vont réfléchir à deux fois avant de vendre tout le monde. Et je pense qu'en fait, ils vont l'écouter beaucoup plus.
Il n'y a plus grand chose à vendre d'un côté. Hein.
Non, mais là, il y a énormément de joueurs. Je ne sais pas combien de contrats il y a à Monaco, mais je crois
mais de joueurs à très fort valeur, il n'y en a plus beaucoup.
Mais Guillaume, non, ça c'est presque l'étape d'après, ça déjà, Guillaume. Tu vois, mon avis tranché, c'est est-ce que Jardim est l'homme de la situation des 4 mois, en fait. Bah, après, je suis comme toi. Moi, j'ai aucun souci que si là, Jardim arrive à sauver Monaco, derrière, je pense qu'il prend en crédibilité encore plus et en poids dans le décisionnel. Et là, je suis d'accord avec toi. On retrouve ce pourquoi Jardim est très très capable, c'est-à-dire rebâtir quelque chose de durable.
Bien sûr, et puis en plus lui on le sait que c'est un bâtisseur, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est quelqu'un qui aime préparer son groupe, qui aime le peaufiner, qui aime tirer le meilleur des joueurs quand ils sont à fort potentiel comme ça. On a vu ce qui s'est passé avec Bernardo Silva, joueur peu connu.
Oui.
Il arrive à Monaco, aujourd'hui c'est une star internationale, disons-le. Fabinho, pour moi c'est grâce à Jardim qu'il est devenu ce qu'il est, parce qu'à la base il jouait latéral droit. Et Jardim a absolument voulu le mettre milieu défensif, on a vu ce que ça a donné à Monaco. Bref,
Mendy.
J'en ai plein. Mendy aussi, bien sûr, Mendy c'est dur, parce que c'est un joueur à fort caractère, mais Jardim, lui, il arrive à justement tenir un groupe, tenir des joueurs qui, justement, ont de fortes personnalités. Moi, je pense qu'il va nous sauver. Et même, allez, admettons, on descend en Ligue 2. Pour moi, c'est une catastrophe parce que les dirigeants de l'ASM, je pense que vous le savez, ils ont créé un complexe d'entraînement, là, à la Turbie.
Un centre de performance extraordinaire, oui.
Extraordinaire, je crois que c'est 200 millions d'euros. Donc, ils peuvent pas se permettre de descendre. C'est pour ça qu'ils tentent le tout pour le tout. Ils ont fait all-in pour justement rester en Ligue 1, quoi.
Tiens, petite précision également, parce que c'est vrai que finalement ça s'est fait très vite, hein, ce retour de Jardim. Il s'est exprimé d'ailleurs à ce sujet aujourd'hui également. Il a expliqué, ça s'est passé très vite, j'étais à Madère quand la décision a été prise. Alors et là, on lui demande s'il a parlé avec Thierry Henry, il a dit, il déclare, je lui ai téléphoné sans parvenir à le joindre. Peut-être que dans le futur, nous parviendrons à nous parler.
Ouais. Avec en fait, moi, ma question, et je pourrais la poser à Guillaume, c'est ça ?
Mathieu.
non, c'est quand Jardim le dit lui-même, il y a 3 mois, quoi, finalement. Je sens plus le truc, j'y arrive plus, je le sens pas moi-même. Qu'est-ce qui a changé depuis 3 mois pour que Jardim aujourd'hui puisse sentir la chose différemment, en fait?
C'est pas ça.
C'est un nouveau challenge, en fait, c'est pour ça.
Non, mais il le sent pas. C'est de refaire podium avec l'équipe qu'il avait en main. Mais là, il arrive, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure.
Ouais.
Lui, tu le disais toi-même très bien. C'est un homme de challenge. Lui, on lui dit, l'année prochaine, faudra faire au moins aussi bien que cette saison.
Donc là, le challenge, c'est le maintien. Et ça, oui, auquel cas, oui.
Lui, il dit, en début de saison, il se dit, moi, taper podium, voire même Europe avec cette équipe, je le sens pas. Là, il revient, il récupère d'autres joueurs. Bon, il y a eu des changements.
Martins.
Et là, faut jouer le maintien. Bah là, il dit, oui, là, je le sens.
Ouais, c'est vrai.
Mathieu, t'as
bien. Si tu te mets à la place de Jardim, bon, t'as de mauvais résultats depuis le début de la saison. Mois de octobre, tu t'es licencié. Tu prends un énorme chèque parce que t'as un contrat de, je crois, 3 ans et demi. Bon, on connaît la relation qu'il a avec Vadim Vassiliev. Il est licencié. Il voit que le club, ça marche pas. On le rappelle. Donc, il revient un peu en position de force en se disant,
ah oui, bien sûr.
Ce club même, et j'aime ce club. Et je m'entends très bien avec ses dirigeants.
Et il aime la vie là-bas aussi.
Mais clairement, mais oui, en plus, il vit pas loin de où je suis. Donc, je le vois. Moi, je suis à côté du Novotel, à Monaco, okay. Là où il faut les.
Ah bah, ton voisin, alors, il est juste à côté, lui aussi.
Ouais, il est vraiment pas loin, quoi. Je le crois souvent, d'ailleurs. Et en plus, c'est une personne qui est toujours agréable à regarder.
Ah oui, c'est
regardé. Non.
Ouais, regarder aussi, mais.
Chacun ses goûts.
Et puis,
pas regarder, mais je suis un peu fatigué.
J'ai déjà, il aime bien la bière.
Il le surveille au bord du port.
Il est assez accessible. Moi, j'ai déjà vu.
J'imagine Mathieu sur son balcon, qui attend Leonardo.
Sur le balcon.
J'espère que je vais pas rester dans le petit journal.
On imagine comment il est sur le balcon, Mathieu.
Il y a du monde au balcon.
Non, c'est bon, moi je suis cloîtré, j'ai pas de balcon. Ça.
Non, mais t'as des jumelles.
T'as craint. Je vais avoir du monde en bas de chez moi demain. Non, ouais. Je suis hétéro, hein, je tiens à le signaler.
Non, bah, il n'y a
pas de problème.
Hein.
Oh, oui.
Bah oui.
Mathieu, là où on est, je pense que tout le monde sera d'accord, et ce qui est assez rare finalement, c'est que malgré la situation ubuesque qui est, voilà, face à laquelle on est, parce que c'est du jamais vu ce qui se passe, tout le monde a envie que pour Jardim ça marche. Tout le monde est.
Pourquoi? Parce qu'il y a une sympathie vis-à-vis de lui.
Bien sûr, parce qu'il y a une vraie sympathie pour cet homme-là, et c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que Mathieu nous dit qu'en plus, mais on le sait aussi, mais pas parce que Jardim est un homme attachant.
Et rappelez-vous comment il a réussi à inverser la tendance. Parce que rappelez-vous de ce qu'on disait de lui l'année avant le titre.
Il est
chiant, il est vraiment pénible à avoir joué. Alors que c'est un grand coach.
Mathieu, merci d'avoir été avec nous.
Ouais, juste pour terminer, le changement de système sera important parce que jouer à 5 derrière, comme je disais, je le dis très souvent à l'antenne, mais avec les avec des latéraux comme on a aujourd'hui,
c'est pas possible.
Il faut pas, c'est impossible, impossible.
Ça voilà,
je pense que qu'il a regardé tous les matchs de l'AS Monaco parce que c'est un professionnel et qu'il s'est rendu compte.
Il sait très bien que ça marchera pas.
Bien sûr.
Et t'as
bien
pas merci en tout cas Mathieu d'avoir été avec nous et sache que t'es très agréable à écouter. Voilà.
Ouais. Ouais. Bah, merci vous aussi les gars.
Merci, bonne soirée Mathieu.
Salut Mathieu.
Ciao Mathieu.
Les drôles de dames sont prêtes. Voilà, elle se prépare, elle s'échauffe, bien entendu. Simone Rovera, Fred Hermel, David Lortolari et Julien Laurent seront avec nous dans quelques instants avec Pierre Ducrot, Jonathan Macardy et vous au 32-16. C'est parti pour l'heure des drôles de dames. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot.